Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello mes amis et bienvenue sur un nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, je vous embarque toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des chercheurs, entrepreneurs, des athlètes, des scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Et cette semaine, je ne vais pas déroger à la règle puisque j'ai l'immense honneur d'accueillir sur le Gratin Virginie Guyot. Virginie Guyot est pilote de chasse de l'armée de l'air française, rien que ça, première femme à intégrer la patrouille de France avant d'en assurer ensuite le leadership, une première mondiale dans les patrouilles acrobatiques. Alors amateur de vitesse et de sensations fortes, cet épisode, je vous préviens, est fait pour vous. Avant que j'entre dans le descriptif de l'épisode, si vous souhaitez contacter Virginie, rendez-vous sur son site internet virginieguyot.com, je vous mets tout ça dans le descriptif en tout cas, ou directement sur LinkedIn. Et puis sachez que Virginie est désormais conférencière professionnelle et pourra donc répondre via ses biais à toutes les demandes d'intervention en entreprise si ça vous tente. Car au-delà de l'expérience vécue dans un cockpit de Mirage, le vrai sujet qui passionne Virginie est le travail en équipe. Sur ce sujet, Virginie a multiplié les exemples et conseils issus du monde de l'armée et qui sont totalement applicables au monde de l'entreprise. Pour vous donner quelques exemples, comment réussir par exemple à susciter donc un esprit d'équipe, même face à des fortes personnalités. La différence entre un grand leader et un leader médiocre, l'importance de l'écoute et de l'humilité, ou encore les techniques pour éviter les guerres de clochers au sein d'une même boîte. Vraiment passionnant et vraiment applicable à la vie de tout un chacun, qu'on soit dans l'armée ou pas. Au-delà de ça, on a naturellement parlé de ce qui avait suscité sa vocation de pilote, des difficiles années de formation, des premières émotions en vol, ou encore de la particularité d'un métier où finalement on joue sa vie quasiment à chaque instant. Une grande dame et un merveilleux moment passé en sa compagnie. Merci beaucoup Virginie pour ça. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Virginie Guyot. Bonjour Virginie, bienvenue sur le Gratin.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Si ça te va, j'aimerais commencer par parler travail en équipe. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et si je me trompe pas, donc on va parler de tout ton parcours, mais notamment donc t'as été à la tête de la patrouille de France. Et la particularité quand on est pilote, si je comprends bien, surtout dans la patrouille, c'est que chaque pilote accepte finalement de mettre sa vie dans la main des autres. Et donc le travail en équipe est assez fondamental. Il y a une notion de confiance qui est assez démente. Et du coup, je voulais tout simplement en fait avoir pour toi ta vision de qu'est-ce que c'est justement qu'un esprit d'équipe qui doit être assez particulier dans un secteur comme le tien.
Oui, alors c'est vrai qu'à la Patrouille de France, c'est assez particulier parce que comme tu dis, on met vraiment nos vies entre les mains de nos coéquipiers et vice-versa, puisqu'on vole à des vitesses qui ont jusqu'à facilement 700 km/h, à 2-3 mètres les uns des autres, dans des positions assez exotiques et pas loin du sol. Donc tout repose, comme tu le disais, sur la confiance. Et je pense que la confiance est une valeur fondamentale en travail d'équipe. La confiance les uns envers les autres, bien sûr, à la Patrouille France. D'ailleurs, je pense que c'est cette confiance mutuelle qui fait qu'on est capable de faire des figures qui paraissent presque impossibles à faire quand tu les griffonnes sur un morceau de papier au départ. Alors bien sûr, il y a l'expertise des uns et des autres. Les compétences, c'est super important. C'est comme dans tous les métiers. Mais au-delà des compétences, ce qui fera la différence et ce qui fera que 1 plus 1, ça fait pas 2, mais ça fait 4 ou 5, c'est vraiment la confiance qu'on va réussir à construire dans cette équipe. Et ce qui est particulier à la Patrouille de France, c'est que tout le monde ne sait pas. En fait, on vole à 8 pilotes. On a un 9e pilote qui est le remplaçant, sauf le 14 juillet, on vole à 9. Mais le reste du temps, on est 8 pilotes. Et chaque année, à la fin de la saison estivale, la saison des meetings aériens, alors cette année, c'est particulier, bien sûr, avec le Covid, il y a beaucoup, beaucoup de meetings qui ont été annulés, malheureusement. Mais à la fin de la saison, au mois d'octobre, eh bien, il y a 3 pilotes qui quittent l'équipe et 3 autres pilotes qui intègrent l'équipe, qu'on a sélectionné, enfin, qui ont été sélectionnés au mois de janvier ou février. Et en plus, tous ceux qui restent dans l'équipe, les 6 qui restent, changent tous de place. Donc, pour te dire, en fait, tu ne restes pas plus d'un an dans ton poste et tu fais en moyenne 3 ans, donc tu occupes 3 postes. Voilà, si tu fais 2, 3 ou 4 ans, bon bref. Et du coup, je trouve que c'est encore plus intéressant parce que ce n'est pas ça qui est intéressant, ce turnover, évidemment, qu'on peut imaginer qui n'est pas forcément rentable dans une entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce turnover annuel, qui est un grand chamboulement pour l'équipe à chaque fois, ça remet en cause la hiérarchie. C'est le leader change chaque année, tu vois. L'extérieur gauche change chaque année, voilà. Tout le monde grimpe petit à petit dans la hiérarchie de l'équipe. Et ben, je pense que c'est une équipe qui a réussi à trouver les leviers qui permettent justement de créer la confiance assez rapidement et de créer un état d'esprit et de l'intelligence collective. Donc, c'est, voilà. Pour moi, cette confiance, c'est finalement, ça devient un objectif de tous les jours pour cette équipe, parce qu'on sait que c'est là-dessus que repose l'esprit d'équipe.
C'est fou, parce que justement, une des questions moi qui me taraudait, c'est je me disais, bah, tu vois, pour construire la confiance, il faut forcément du temps. Pour moi, confiance égale temps.
Exactement.
Et là, ça change. Et en plus, les positions changent. Donc, du coup, comment est-ce que cette confiance se construit? Comment est-ce que vous arrivez à la susciter quand vous avez ce nouvel arrivant qui se joint à l'équipe, alors que j'imagine vous êtes déjà extrêmement soudés?
Ouais, en fait, il y a beaucoup d'étapes, mais il y a plein de choses qu'on utilise. Alors, je parle des pilotes, mais cette confiance, elle est bien sûr avec tout le personnel de la Patrouille de France. Il y a à peu près 50 ou 60 personnes à la Patrouille de France. Hein. Il y a des secrétaires, il y a des mécaniciens, des agents d'opération, il y a beaucoup de monde. Alors, tout le monde n'a pas le même turnover, bien sûr, que celui des pilotes, mais il y a voilà, comment ça se passe. Déjà, il y a la sélection des pilotes qui est très particulière.
Ouais.
Donc, faut savoir que, bien sûr, qu'il y a des critères techniques de qualification en vol, de nombre d'heures de vol qui sont super importants et qui sont incontournables. Mais au-delà de ça, quand on va choisir, parce qu'on a ce luxe de choisir les gens que l'on va intégrer à l'équipe lorsqu'on
Donc
est pilote à la Patrouille
d'accord.
de France, voilà. On va se concentrer plutôt sur les qualités humaines, évidemment. Et donc, les gens qui viennent candidater à la Patrouille de France ont passé une journée entière avec les pilotes, avec les mécaniciens évidemment aussi, vont faire les 2 vols d'entraînement quotidiens en place arrière, sans toucher. On va pas les tester pour voir si ça volait avec la patrouille, parce que ce serait pas possible, ce serait dangereux. Mais il faut qu'ils voient, qu'ils prennent conscience déjà du défi technique que ça représente, que d'être pilote à la Patrouille de France, même si c'est pas que ça à la Patrouille de France. Et du coup, voilà, c'est toute une journée en fait de sélection qui vont nous permettre de les observer, de discuter, de voir aussi comment ils se comportent, leur intérêt bien sûr pour la patrouille, pour le travail, voilà, l'organisation du travail au sein de cette unité. Et donc il y a ça, il y a aussi le fait que dans l'armée de l'air, en fait, quand un nouveau arrive, si tu veux, quand tu arrives en unité opérationnelle, que tu sois pilote, mécanicien, contrôleur aérien, agent d'opération, eh ben, tu vas passer par un espèce de petit parcours d'intégration, une sorte de vie ma vie, où avant de te mettre la tête dans le guidon, on va te demander d'aller voir un petit peu toutes les autres unités opérationnelles qui gravitent autour d'une mission aérienne, pour que justement, très vite, tu arrives à créer des liens avec les uns et les autres, que tu t'aperçoives que mécanicien, tu découvres quel est le boulot du mécanicien, quelles sont les différentes spécialités de mécanicien qu'il peut y avoir, à quel moment ils interviennent, quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs attentes, idem pour les contrôleurs aériens, etc. Et du coup, ça permet d'éviter de créer des silos dès le départ, tu vois, parce que si tu mets tout de suite la tête dans le guidon quand t'es pilote, c'est hyper prenant, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et du coup, si t'es tout de suite là-dedans, tu regardes pas, tu sors pas la tête de l'eau et finalement, t'as l'impression qu'il y a que des pilotes dans la vie, en fait. Il y a que
Alors
grâce
que
à eux que la mission
a réussi. Un rôle en plus fondamental.
Ça marche pas, évidemment.
Bien sûr.
Et ça, c'est important. Voilà.
C'est drôle parce que finalement, je fais énormément de rapprochements avec le monde de l'entreprise. Là, finalement, vous faites passer des entretiens. Mais c'est si dur de réussir à un peu juger quelqu'un, finalement, sur même une journée. Et donc, je ne sais pas si tu pourrais nous parler de ça, mais est-ce qu'il y a des critères, des éléments, des signaux faibles que tu arrives à déceler, que vous avez mis en place, sans évidemment, ouvrir des choses confidentielles, mais comment est-ce que tu, justement, essayes de sentir cet humain? Parce que c'est ça le plus difficile, je trouve, et pour vous, c'est tellement fondamental.
Alors, il y a un entretien à la fin de la journée de sélection, notamment, où, c'est beaucoup, on va apprendre à connaître la personne, comprendre ses motivations, comprendre sa façon de gérer, son rapport aux autres quand il part en opération, quand il est en escadron, etc. Il faut savoir que généralement, à la fin de la journée, il y a aussi un match de foot.
Ouais,
parce qu'à la Patrouille de France, en fait, on fait quand même beaucoup de sport. Donc le matin, c'est beaucoup de muscu avant les vols pour préparer les organismes. Ouais. Et puis le soir, c'est beaucoup de sport co. À la fois pour, alors souvent du foot 9 fois sur 10, mais c'est souvent, enfin, c'est une sorte de sas de décompression aussi parce que les vols sont hyper éprouvants. Et on a besoin vraiment de, voilà, de pouvoir se lâcher. Tu ne peux pas te lâcher en vol, tu peux pas te mettre en colère à la radio, oui. Tu peux pas pleurer à la radio, tu peux pas jeter l'éponge, on va dire, quand tu es dans un match de foot. Après, au bout d'un moment, tu es humain. Quand tu as une dure journée, que tu as eu des doutes, que tu n'as pas réussi tes vols, etc., ben là, tu peux. Parfois, c'est là où tu peux d'ailleurs prendre la température de ton équipe. Mmh. Et c'est assez intéressant. Donc, quand on a les candidats qui viennent jouer avec nous au foot aussi, enfin, je trouve que le sport permet aussi de révéler les personnalités des gens. Donc, je trouve que ça donne en tout cas des bons indices. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a peu de pilotes de chasse en France, malgré tout. À l'armée de l'air, il y a peu de gens qui ont... tous les prérequis pour pouvoir candidater à la Patrouille de France. Et du coup, ces candidats qui viennent chaque année passer les sélections sont jamais complètement inconnus au bataillon. Bien et sûr. Même si tous les pilotes de la Patrouille de France ne les connaissent pas, il n'y en a jamais aucun qui est complètement inconnu. Et en plus, on a aussi tous beaucoup de relations dans les escadrons qui nous permettent vraiment de à la fin de prendre des décisions et de faire des choix qui sont vraiment en toute connaissance de cause et pour pas faire de choix difficiles. Tu sais, on se réunit quand même plusieurs soirées d'affilée pour pouvoir petit à petit intégrer les trois, enfin choisir les trois personnes. Enfin, je dis je suis plus du tout dedans, mais ça se passe généralement comme ça. Et parce que ce sont des choix importants, ça a des conséquences pour la carrière, la vie des gens que l'on va recruter. Donc, mais c'est vrai que ces qualités humaines sont essentielles et on est dans un corps de métier où on est quand même facilement à l'aise, entre guillemets, suffisamment à l'aise les uns avec les autres, où on est tous passés par la même formation aussi, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Donc on sait ce qu'ont enduré les personnes qui viennent là aussi. Et du coup, cette journée est vraiment mise à profit pour se découvrir les uns les autres. Donc, il n'y a pas de barrière, si tu veux, dès le départ, généralement. Et ça permet humainement de sentir effectivement les gens, de peut-être détecter certains signaux faibles ou des signaux forts, au contraire. Et ça, c'est...
Ouais, je comprends.
C'est assez efficace.
Est-ce que tu as déjà eu le cas, ou peut-être tu as déjà réfléchi à ce cas de figure du type de personnalité qu'on peut imaginer à la Top Gun, c'est-à-dire brillant, mais peut-être un peu tête brûlée, qui du coup est typiquement la genre de personne qui n'est pas très bon en travail en équipe, qui est peut-être bon leader et encore, il faut y réfléchir. Et du coup, ce genre de personnalité, quand tu as quand même envie qu'il travaille en équipe, comment est-ce que toi, en tant que leader ou manager ou dirigeant, tu peux réussir justement à lui faire comprendre l'importance de collaborer? Mm-hmm. Parce que très souvent, c'est pour ça que je trouvais que l'image du foot était aussi intéressante. Il faut se dire que c'est l'équipe au total qui va aller pour le bien commun du projet. Et vous, c'est particulièrement le cas à la Patrouille de France, mais même, j'imagine, dans toutes les opérations que tu as pu faire dans l'armée de l'air.
Ouais, alors c'est clair que justement cette image de Top Gun, c'est intéressant. J'en parle de temps en temps dans mes conférences parce que typiquement nous
c'est l'image qu'on a, mais je suis pas sûre que ça soit.
Non, c'est pas la réalité, heureusement. Mais effectivement c'est l'image que nous a donné un petit peu ce film. Typiquement c'est ce type de personnalité, on va pas s'encombrer avec ça à la Patrouille de France parce que c'est pas bon. La Patrouille de France c'est une patrouille en fait, c'est une équipe et nous on ne fait que passer en tant que mécanicien, en tant que pilote. Et le but, c'est de faire briller la patrouille, donc l'armée de l'air, donc les armées françaises, donc l'industrie aéronautique française et donc la France quand on va à l'étranger. Donc c'est très puissant en fait, c'est quelque chose qui nous dépasse en tant qu'individu, ce qu'on représente. Donc effectivement, on ne veut pas qu'il y ait de têtes qui sortent plus que d'autres, loin de là, ce n'est pas le but. Ça reste un poste prestigieux, mais plutôt, moi je prends ça comme un honneur finalement quand on est à la Patrouille de France, de pouvoir servir cette cause. Et effectivement, celui qui est un peu trop égocentré, arrogant, qui n'hésite pas à écraser les autres pour avancer, ça ne marche pas. Donc on ne va pas s'encombrer avec ce type de personnalité à la Patrouille de France. On a besoin de personnes qui vont être capables à un moment donné de mettre leur ego de côté quand ils auront compris que c'est dans l'intérêt de l'équipe ou dans l'intérêt de la mission. Ça c'est super important, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ego. L'ego c'est super important, mais là, voilà, ce que l'on recherche, c'est quelqu'un qui a envie de mettre toute son, son énergie, son expertise au service de l'équipe, au service de la mission. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnalités comme ça dans les escadrons de chasse. Bien entendu, il y en a. On a un outil qui est super, qui fait notre force, je pense, dans l'armée de l'air. C'est cette capacité à débriefer tout le temps. Et quand on débriefe les gens, alors c'est carrément une culture hein, chez nous, cette culture du feedback et du débrief.
Mais ça, ça serait tellement et bien ça, l'implémenter dans le monde de l'entreprise.
Ouais,
et c'est tu peux nous raconter c'est quoi en fait exactement un débrief? Ça consiste en quoi?
Bah alors, tout simplement déjà, ça part du fait que quand tu es pilote et que tu commences les vols et l'instruction en vol, évidemment, c'est pas gratuit. Donc, tu voles, tu briefes déjà avant de voler, tu prépares même avant de briefer. Un vol, c'est pas juste ce qui se passe entre le décollage et l'atterrissage, c'est la préparation, le briefing, le vol en lui-même et puis le débrief. Le vol, il se termine à la fin du débriefing. Et on n'aurait pas idée de repartir sur un autre vol sans avoir débriefé le vol d'avant. Pourquoi? Parce que finalement, ce débriefing va servir à préparer et à t'améliorer dans la préparation des vols suivants. Donc, c'est une évidence. Et le but, c'est de tirer d'enseignement de chaque vol, donc de te remettre en question, de remettre en question ta performance, mais aussi ton comportement. Parce que quand tu es jeune élève pilote, ça se fait à l'oral, hein, bien sûr, ce débriefing. C'est structuré, tout comme un briefing, pour que tu passes pas 2 heures à chaque fois que tu inventes pas la poudre. Et surtout, après ce débriefing oral, ton instructeur, il va remplir ta fiche, effectivement, où tu as différents critères de débriefing. Et tu as à la fois les critères purement techniques, de pilotage, ça peut être la tenue des éléments, le sens du relatif, la division d'attention, ce genre de choses. Comme il y a également tout un pavé de critères comportementaux,
oui.
que sont la confiance en soi, la capacité de travail, l'esprit d'équipe, la prise d'initiative, ce genre de choses, tu vois. Et du coup, depuis que t'es tout petit, entre guillemets, t'apprends à recevoir finalement ces critiques qui sont pas toujours négatives, mais qui le sont quand même parfois pas mal. Ça dépend de ta phase de progression et de comment ça se passe, mais il y a aussi du positif, évidemment. On t'apprend finalement à te remettre en question systématiquement, à évoluer, etc. Donc, si tu veux, des personnalités comme tu décrivais à la Top Gun, même s'il y en a, c'est jamais excessif parce que on est dans un système que je trouve extrêmement vertueux et qui permet un peu de casser entre guillemets ce côté trop égocentré,
ouais.
Et trop je suis le meilleur du monde. Je dis pas que ça n'existe pas, il y a toujours des gens un peu comme ça, mais c'est quand même très rare et c'est pas du tout la majorité.
Ah bah
et moi
c'est
j'ai été très surprise en arrivant en escadron opérationnel. Je suis arrivée en 2002 moi sur Mirage F1. Et j'étais très surprise par cet état d'esprit parce que je redoutais justement ce que j'imaginais un peu à la Top Gun, qui a existé un petit peu quand même, faut pas se voiler la face, il y a plusieurs décennies, mais c'est plus du tout notre façon de travailler dans l'armée de l'air. Et puis ça vient de notre recherche de la maîtrise des risques, tu vois, et de lutter contre...
Bien sûr. Et au niveau du débrief, justement, en fait, le débrief, il est purement top-down, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est ton instructeur qui te débriefe, ou en fait, on commence par demander à l'élève pilote de lui-même faire une évaluation de son propre travail.
Alors, ça dépend beaucoup de ta phase de progression, mais les deux sont possibles, effectivement. En fait, quand tu es pilote de chasse, tu apprends vite à voler en patrouille et donc aussi à être leader d'une patrouille de 2 avec ton instructeur qui est en numéro 2. Donc là, comme c'est toi le leader, tu vas briefer, tu vas débriefer et ensuite le leader va te débriefer ta façon de briefer, de voler, de débriefer, etc. Donc en fait, ça dépend vraiment de ta phase de progression. Mais même si tu es jeune pilote, un débriefing commence toujours par la sécurité. Un briefing termine toujours par la sécurité, mais le débriefing commence toujours par la sécurité. Et quand on parle de sécurité, tout le monde a la parole. Et ça commence à la patrouille de France, tu commences par faire parler ton numéro 2, ton 3, ton 4, ton 8, et c'est le leader qui termine.
Et tu vois, je trouve ça formidable parce que je sais que peut-être certaines personnes se disent que c'est un peu procédurier, mais en réalité, dans le monde de l'entreprise, moi, ce que je constate, c'est que ce passage de relais, donc ça, c'est du management finalement, et c'est apprendre à être leader ou apprendre à faire du feedback, n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que très souvent, en fait... t'as collaboré sur un projet, ça s'est bien passé, puis tu deviens peu à peu manager. Et en fait, il n'y a pas vraiment cette formation, je trouve. Alors oui, il y a des gens qui font passer des formations, il y a des conférences qui l'expliquent, etc. Mais en fait, cette culture vraiment intrinsèque au monde de l'entreprise, ça doit exister dans certaines entreprises, mais c'est rarissime.
Ouais.
C'est rarissime et c'est tellement dommage parce que c'est dur.
Ouais.
Et là, si vous êtes, entre guillemets, obligé de le faire pendant des années, c'est que ça prend du temps, quoi.
Exactement. Et c'est ce que j'allais dire, ça ne se met pas en place du jour au lendemain, mais tout est possible. Et je pense que c'est... si c'est fait avec bienveillance et sans jugement, parce que c'est aussi la clé pour que les gens soient suffisamment en confiance pour être capables de parler et de parler de leurs erreurs notamment. Et si tout le monde joue le jeu et qu'il y a de l'exemplarité à tous les niveaux, c'est tellement vertueux, c'est tellement... Et nous, ça part au départ d'un besoin de maîtriser les risques, et de descendre, de diminuer notre taux d'attrition, etc. Et on s'est rendu compte que sur en termes de performance,
c'est que ça augmente la performance.
Tellement efficace, ouais.
Passionnant. Je voulais te parler, mais c'est corollaire de leadership, parce que en tant que pilote, forcément, tu as un rôle de leader. Et puis surtout, donc quand tu es au sein de la Patrouille de France, même si c'est particulier parce que ça change, le leadership change, il y a à un moment donné une personne qui est leader. En fait, déjà, une question un peu générale, je sais pas si tu peux y répondre, mais je sais que c'est un sujet que tu abordes dans tes conférences, c'est pour toi, c'est quoi un grand leader? Et peut-être pour t'aider aussi dans la réponse, c'est comment est-ce qu'on pourrait le différencier d'un leader médiocre? Parce que beaucoup de gens, je pense, se voient comme des leaders. Mais la réalité, c'est que être un bon leader ou un grand leader, c'est autre chose, c'est très difficile. Et dans tout ce que tu me dis, cette bienveillance, ce respect, ce travail collaboratif, en fait, c'est pas forcément l'image d'Épinal qu'on a du leader, mais je la trouve personnellement très intéressante. Et donc, je voulais avoir ton point de vue sur ce sujet.
Ouais, la question est difficile, je trouve, parce que déjà, t'as manager, t'as leader, c'est deux choses qui sont, je pense, différentes. Quand t'es manager, c'est mieux d'avoir du leadership, mais t'es pas forcément le seul leader du groupe, et pas toujours à toutes les phases. Et je pense que le leadership, c'est une qualité qu'il faudrait développer à tous les niveaux. Mais malgré tout, et je pense aussi que le leadership, c'est quelque chose de très personnel. Donc, il n'y a pas de modèle idéal de leader, je pense. Simplement, ma vision et ce que je me suis dit quand j'ai accédé à des postes de responsabilité, où il fallait emmener des gens, le leadership, quand on te confie un leadership, c'est pas un pouvoir, en fait. C'est plus une responsabilité, une énorme responsabilité qu'autre chose. Et quand tu le vis comme ça, déjà, je trouve que c'est... t'as dit déjà beaucoup de choses. Et être responsable, c'est être responsable de faire grandir les gens qui sont autour de toi. C'est être responsable de réussir à les fédérer autour de ton projet, de ta vision. Et et pour arriver à faire ça, à assumer cette responsabilité du mieux possible, pour moi, il y a des valeurs qui sont essentielles, comme inspirer confiance, faire confiance, évidemment, considérer les gens, les écouter et s'intéresser à eux. Pour moi, c'est super important, en fait.
Et c'est ça, vrai que ça passe par quoi, en fait, concrètement? Enfin, tu vois, parce que je suis complètement en phase, évidemment, mais je me dis, le leader, ou le manager même, n'a pas forcément, se dit qu'il n'a pas forcément le temps. Et du coup, je pense qu'au contraire, c'est un temps qui est très important à prendre. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu aurais des idées d'action ou toi-même dans ta carrière, par quoi ça passait? Est-ce que ça passait par juste tu prends un café avec telle ou telle personne?
Mais bien
c'est aussi
sûr.
Bête que ça.
Et oui, de t'inquiéter, d'aller, sans se forcer, évidemment, mais quand tu te mets à la place des gens, et quand tu te mets à la place des gens et dans leur métier, je pense à un mécanicien qui a passé toute la nuit à réparer un avion, la moindre des choses le lendemain, c'est d'aller lui demander comment ça s'est passé, à quelle heure il s'est couché, est-ce qu'il n'y a pas eu de complications. Enfin, tu vois, c'est rien, ça te prend pas 10 minutes, mais et ça touche les gens, en fait. Tu te rends compte que et du coup, ça les motive parce qu'ils voient que ce qu'ils ont fait, c'est pas juste ils ont fait leur boulot, finalement ils ont fait que leur boulot, mais en fait ils voient que c'est pris en considération et qu'il y a une reconnaissance, exactement. Et ça prend pas non plus 10 000 ans, quoi, à chaque fois. T'as pas toujours le temps de le faire, effectivement, mais c'est vraiment important de bien conscientiser le fait qu'autour de toi, c'est des gens, que t'as des personnalités, des gens qui ont des métiers différents, avec des contraintes différentes, et qu'il faut bien être conscient de tout ça. Mais prendre un café, c'est super important. Nous, on a un bar dans les escadrons, toujours. Dans les hangars de mécaniciens, il y a des bars. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'alcool, c'est interdit, si tu bois une bière, bien sûr, pas avant de voler, mais ça peut arriver le vendredi soir, etc. Mais c'est tellement important de... Pour moi, c'est presque un passage obligé pour nous, parce que, encore une fois, après la journée qui est très centrée sur la performance de l'équipe, les résultats, etc., là, on peut un peu se détendre, parler pro ou pas pro. D'ailleurs, il y a parfois beaucoup de problèmes professionnels qui se résolvent comme ça, parce qu'on est allé discuter le soir avec les gens, ou qu'on est allé prendre un café le matin, et ça peut être extra pro, effectivement, aussi. Mais voilà, il y a... C'est une vie d'équipe, en fait, à mener aussi. Il n'y a pas seulement la vie de l'équipe.
Oui, c'est pas juste on fait un point de management, on descend la to-do et...
Oui, non, pas du tout, exactement. Hein, exactement. Et puis le feedback, c'est jamais... Ça peut être une sorte de débriefing au bar aussi, tu vois, sans que ce soit, pour le coup, structuré, mais une sorte de... Voilà, d'échange sur un problème qu'il y a eu en début de semaine ou hier ou que sais-je. Et il va y avoir un dialogue permanent, en fait. C'est ça qui est important.
Et à l'inverse, et ensuite j'aimerais parler du reste, évidemment, de ton parcours, mais à l'inverse, ma dernière question, c'est si tu vois des erreurs particulièrement fréquentes en management, en leadership, en esprit d'équipe, enfin, tout le sujet de façon dont on parle depuis le début, c'est comment créer une équipe, quoi, ouais. Et comment faire collaborer les équipes. Quelque chose qui te saute aux yeux, que tu vois fréquemment et sur lequel tu dirais qu'il faut parfois tirer la sonnette d'alarme, ouais. Et comment faire pour que ça évolue.
Ouais. Et la question, c'est quoi alors? Comment faire pour que ça change?
Quelles sont les erreurs et comment faire pour que ça change?
En fait, je pense que chaque situation est différente. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais moi, j'ai déjà eu ce genre de choses dans mon équipe. Et donc, déjà, c'est bien d'en prendre conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Et après, voilà, je pense que chaque situation est très différente. Moi, j'ai eu un petit souci de ce genre, je pense, à un moment donné. J'en ai pris conscience. J'ai regardé comment ça évoluait. Et après, c'est sûr que c'était mon devoir de leader d'aller voir la personne pour lui dire « faut arrêter de faire comme ça, c'est pas comme ça que j'entends la façon de se parler, de communiquer entre nous, etc. » Et en même temps, avant de faire ça, je me suis dit « bah voilà, cette personne que j'ai envie d'aller voir, que j'apprécie énormément, mais il y a un truc qui me plaît pas, j'ai peut-être pas, moi, la plus grande légitimité pour aller le voir par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, qui a fait... même si je suis son chef, entre guillemets, son leader, j'ai envie que ce soit quelqu'un qui soit plus expérimenté que lui, qui ait plus d'ancienneté que lui aussi dans la patrouille de France, qui aille le voir pour lui dire quelque chose. » Et du coup, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai partagé avec la personne la plus ancienne que j'estimais... plus légitime pour aller le voir et qui avait aussi conscience du petit souci qu'on avait, qui n'était pas du tout un gros souci, mais qui était un petit souci qui pourrait à terme devenir compliqué en termes de sécurité. Et il a accepté d'aller le voir et donc ça allait mieux, donc super. Et puis finalement, c'est revenu. Et donc là, je me suis dit, bah, maintenant, j'ai essayé ce que je pensais être la méthode douce, entre guillemets. Ouais. Je vais pas faire... Maintenant, c'est mon boulot de leader d'y aller. Et donc c'est moi qui suis allée le voir tout simplement et en lui expliquant ma façon de voir les choses tout simplement et après ça a changé les choses, voilà. Donc ça s'est plus fait par le dialogue et c'est encore une fois, je reviens à cette histoire de débriefing, c'est comme une sorte de débrief. Alors là, c'est pas du tout structuré, on est bien d'accord, mais c'est un feedback, quoi. Je lui fais un retour sur ce que je ressens et sur ce que je pense n'est pas dans ma façon de faire et dans la façon dont je veux que cette équipe fonctionne.
Je comprends. Bon, écoute, merci en tout cas d'avoir partagé autant de conseils. Je veux quand même parler de ton parcours. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore parfaitement, est-ce que tu pourrais revenir au début et m'expliquer comment tu es tombée dans le monde de l'aéronautique et puis à quel moment, si tu as eu un souvenir particulier qui a fait qu'à un moment donné, tu as pris la décision de vouloir devenir pilote et notamment pilote de chasse?
Oui, clairement, le jour où j'ai voulu devenir pilote, c'est quand j'ai fait mon baptême de l'air. J'avais 12 ans, tu vois. J'étais en quatrième, je me rappelle, en internat. Et on nous a proposé le week-end d'aller faire un vol. Et je me suis portée volontaire. J'avais jamais volé de ma vie, même pas l'avion de ligne, évidemment. Et du coup, c'était...
C'était sur un petit avion.
Un petit avion d'aéroclub. J'étais derrière. Je voyais pas très bien, en plus, tu vois. Mais j'avais trouvé ça magique quand même, quoi.
T'avais été transportée.
Ouais, vraiment, ouais. Et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, enfin, c'est génial de voir l'horizon à perte de vue. Voilà, le pilote avait l'air super à l'aise, donc ça avait l'air super facile. Je me suis dit, ça, c'est un boulot pour moi. Il faut que je fasse ça, c'est magique. Et voilà, donc ça, c'est le jour où j'ai décidé de devenir pilote et d'organiser toute ma scolarité pour devenir pilote.
Et pilote à ce moment-là, privé ou c'était pilote?
Aucune idée, je connaissais rien à ce moment-là. Je voulais juste être pilote. Et cela dit, en parallèle, moi, mon père était passionné d'aéronautique. Bon, d'accord. Il n'était pas pilote, mais il faisait plein de petits modèles réduits et tout ça. Et surtout, il nous trimballait beaucoup sur les meetings aériens, tu vois, déjà. Et moi, j'ai toujours été fascinée par les avions de chasse. Enfin, lors de ces meetings aériens, si tu veux, le bruit des avions, voilà, la puissance, la vitesse. Et j'ai des images vraiment de l'époque où je vois la patrouille de France voler devant moi et à me demander, voilà, essayer d'imaginer les sensations qu'ils peuvent ressentir et avoir envie de ça, quoi. Et c'est vrai que quand t'es jeune, t'as envie t'as envie de, enfin moi j'avais envie de faire un métier d'action et j'avais aussi envie de me rendre utile. Alors tout ça, ça a mûri bien sûr, hein, c'est pas à 12 ans que j'ai dit, mais tout ça, ça a mûri tout au long de mon adolescence, je pense, et je me suis dit je vais devenir pilote dans l'armée. Sauf que quand je suis sortie de ce baptême de l'air à 12 ans, en même temps, j'avais déjà vu des avions de chasse, etc. Mais j'avais décrété que je serais pilote d'hélicoptère. Pourquoi ? Et je pense rétrospectivement parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas tellement confiance en soi. J'avais sûrement peur qu'on me dise, qu'on se moque de moi si je disais je vais être pilote de chasse. J'avais aussi, pas mes parents d'ailleurs, mais j'avais aussi peur de dire à mes parents ça et qu'en fait j'ai plus de chances de les décevoir que d'y arriver et de me décevoir moi-même. Donc je pense vraiment que je me suis auto-censurée à ce moment-là en disant je vais pas viser les étoiles, hein, j'ai visé en haut, alors que ce que je dis c'est complètement faux. C'est-à-dire que comme si pilote d'hélicoptère c'était plus dur que pilote de chasse, c'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement, à l'époque c'est ce que je pensais. Ouais. Ça volait moins vite, donc je me pensais que c'était plus facile. Et du coup je me suis dit ben voilà, je vais être pilote d'hélicoptère. Donc j'ai organisé toute ma scolarité pour devenir pilote d'hélicoptère dans l'armée.
Et donc qu'est-ce que tu veux dire organiser toute ta scolarité?
Et ben je me suis renseignée pour savoir ce qu'il fallait faire pour devenir pilote dans l'armée. Donc je suis allée dans un centre d'information.
T'es devenue très bonne en maths.
Alors on m'a dit vous êtes bonne en maths, bonne en physique. J'ai dit oui, ben super. Alors faut faire l'école de l'air. Donc l'école de l'air c'est l'école des officiers, hein, ouais. À Salon de Provence, c'est l'équivalent de Saint-Cyr-Couët Quidan pour l'armée de terre, mais là c'est pour l'armée de l'air. Et on m'a dit, vous êtes bonne en physique, bonne en maths, donc vous faites maths sup, maths spé et vous faites le concours.
Ouais.
Bon, sauf qu'en fait, il faut, pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont des jeunes.
Conseil.
Ouais, s'ils ont des jeunes qui veulent faire pilote de chasse, faut savoir que il faut pas forcément être, faire maths sup, maths spé et avoir un diplôme d'ingénieur, loin de là. Juste avec un bac, on peut devenir pilote de chasse. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'armée de l'air parce que c'est important de le savoir. Mais à l'époque, c'est vrai que l'armée de l'air voulait vraiment aussi valoriser ce concours de l'école de l'air et disait, voilà, bon, physiquement, maths, faut faire maths sup, maths spé sans parler trop de l'autre filière. Toujours est-il que voilà, donc je me suis engagée là-dedans, bac C, maths spé dans une école militaire, parce que les écoles militaires, il y en a quelques-unes en France, hein, qui sont ouvertes à tous sur dossier et qui permettent à n'importe qui justement d'accéder aux grandes écoles d'officiers. Alors il n'y a pas besoin d'être en école militaire, c'est-à-dire en lycée militaire, maths spé, pour faire des écoles d'officiers, mais l'avantage de ces écoles, c'est qu'il y a déjà une vie en internat, une vie en communauté et en collectivité qui est super et qui permet déjà d'imaginer ce qui peut nous attendre dans l'armée. Et déjà ce goût de la vie et du travail d'équipe. Et il y a aussi pas mal de créneaux qui sont dédiés au sport, puisqu'il y a pas mal d'épreuves sportives. Généralement, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je pense que oui, il y a beaucoup d'épreuves sportives au concours des grandes écoles d'officiers. Et du coup, ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans des classes prépa civiles. Donc c'est super aussi pour ça.
À quel moment, du coup, tu décides qu'en fait, tu ne seras pas pilote d'hélico et que, en fait, tu reprends confiance en toi pour devenir pilote de chasse? Est-ce que ça a été une main tendue aussi où quelqu'un t'a dit « Non mais en fait, t'es tout à fait capable d'être pilote de chasse ?» Comment ça s'est passé?
En fait, c'est le destin qui a décidé pour moi parce que quand j'étais en maths spé, on nous a envoyés dans un hôpital militaire pour faire l'examen médical d'admission, c'est-à-dire voir si déjà médicalement on était apte à être pilote dans l'armée de l'air. Et donc ça a duré, je crois, quasiment une journée, hein, où t'es vraiment examiné sous toutes les coutures. T'imagines bien le cœur, la tête. On te mesure même, tes bras, tes jambes. Enfin voilà, et bien entendu les yeux, les oreilles, et on te fait des radios du dos. Et moi, à la fin de la journée, ils m'ont dit, en fait, vous êtes inapte à l'hélicoptère. Et donc à cause, enfin, ça venait de mes radios du dos. Voilà, j'ai une espèce de désencastrement, si j'ai bien compris, de mes vertèbres à la base de la colonne de naissance, qui fait que c'est incompatible avec les vibrations. Tu sais, dans l'hélicoptère, il y a quand même beaucoup de vibrations.
Ouais.
Et ça démonte un peu la colonne vertébrale. Et du coup, moi, je partais déjà avec une pénalité par rapport à ça. Donc, on m'a dit inapte hélicoptère, donc vous êtes inapte pilote, parce que généralement, il fallait être apte tout. Et donc là, j'étais au fond du seau ce jour-là, je me rappelle très bien. Et tout s'écroulait, en fait. C'était affreux. Tout ce que j'avais réalisé depuis autant d'années, c'était plus possible. Donc à la fin, au médecin, j'ai dit, mais je peux pas faire un recours, je peux pas demander. Il dit, vous pouvez toujours demander une surexpertise médicale, mais franchement, ça changera pas le diagnostic. Donc, je demande ma surexpertise médicale. 2 mois plus tard, j'y retourne. Et là, je tombe juste sur un professeur. Ça dure un quart d'heure. Il était super intéressant en plus. Et il m'a beaucoup cuisiné d'ailleurs sur mes motivations. sachant qu'à la première visite médicale, tous les spécialistes que je voyais, ophtalmo, ORL, machin, tout ça, me disaient, de toute façon, vous voulez pas être pilote de chasse, vous, parce qu'à l'époque, c'était ça, le concours venait à peine de s'ouvrir aux femmes, en fait.
D'accord.
L'année d'avant. Et, ou cette année-là. Et donc, voilà, moi, j'étais dans mes petits souliers, je dis, non, bien sûr, parce que je voulais surtout pas devoir m'expliquer sur quoi que ce soit, ou afficher une ambition et qui leur paraîtrait, pas bien positionnée, j'en sais rien. Et du coup, j'ai dit, non, c'est bon, je veux juste être pilote d'hélicoptère. Et du coup, quand je suis revenue là, à cette surexpertise, le professeur m'a vraiment cuisiné sur toutes mes motivations. Il avait l'air super ouvert, justement. C'était quelqu'un qui bossait aussi la Cité des Étoiles à Moscou avec les astronautes, etc. Il m'a dit, ouais, pliez-vous en deux. Et puis, il m'a dit, oh, c'est bon, vous avez le dos suffisamment musclé. Alors, je suis désolée, vous êtes inapte à l'hélicoptère, vous êtes suffisamment musclé pour supporter une éjection, donc je vous mets apte chasse. Et donc, au lieu d'être au fond du seau, si tu veux, parce que j'étais inapte à l'hélicoptère, j'étais j'étais super heureuse. J'ai pris conscience que ce que je voulais vraiment faire au fond de moi, bah, c'était ça. Mais je n'osais pas y aller, je n'osais pas essayer. Et voilà. Et du coup, j'ai redoublé ma maths P parce que j'ai pas eu le concours la première année. Et la deuxième année, j'ai eu le concours et j'ai intégré l'école de l'air. Alors là, il y avait des quotas à l'époque puisque c'était les premières années où le concours était. C'était la deuxième année, je crois, où le concours était ouvert aux femmes. Et il y avait qu'une seule place pour les femmes. Et une de mes copines était major du concours. Et on était quatre filles à être prises. Et il n'y avait que elle qui avait cette place de potentiellement élève pilote. Et tous les gars qui étaient classés derrière moi, ils étaient, et qui étaient aptes, pouvaient être élève pilote et pas moi. Ouais. Et j'avais une autre copine dans le même cas que moi. Donc j'ai quand même intégré l'école de l'air parce que j'étais super heureuse d'avoir le concours et d'aller à l'école. Et puis pendant les premiers mois de formation militaire, d'autres écoles d'ingénieurs m'appelaient parce que j'avais passé plein de concours, bien sûr, de peur de pas l'avoir. Et là, je me suis posé la question de savoir si je continuais dans l'armée de l'air, en tant qu'officier des bases, ce que je voulais pas forcément être, ou pas. Et donc, je suis allée voir mon chef de l'époque et je lui ai parlé de mon cas de conscience et il m'a dit, non, mais ces quotas sont injustes. Donc, visiblement, j'ai eu des informations comme quoi ça va être arrêté l'année prochaine. Et toi et ta copine, vous pourrez sûrement faire une demande de changement de corps. Et c'est ce qu'on a fait l'année suivante et on est passé dans le corps des pilotes.
Comme quoi, il faut s'accrocher. Hein.
Ouais, voilà, un petit peu.
On va pas parler de tout ce que tu as fait dans le cadre de l'armée air parce qu'il y a tellement de choses. Évidemment, ça serait pas possible. Mais je voulais te demander si tu as un conseil justement pour cette idée de persévérance et de mental. Parce qu'on sait que les études pour devenir élève pilote de chasse et ensuite pilote de chasse sont extrêmement difficiles physiquement et mentalement parce que très exigeantes. Est-ce que tu aurais un conseil ou peut-être un souvenir du discours intérieur que tu avais à l'époque quand tu as eu des moments où tu t'es dit « j'en ai marre, c'est trop dur, je vais jamais y arriver » ou que tu as eu un débrief et qu'on t'a dit « c'est nul, j'imagine que ça a dû arriver ». Comment est-ce que tu fais pour t'accrocher, te dire « non mais en fait, je vais redoubler d'efforts, je vais signer » parce que finalement, c'est complètement applicable à n'importe quel autre sujet, même moins difficile.
Ouais, alors moi... Alors c'est clair que abandonner c'est pas une option en fait, tu vois dans l'idée parce que c'est un concours,
t'as jamais pensé à abandonner?
Non, je crois pas, non. Non parce que en fait c'est quelqu'un va le faire pour toi, tu vois. Quand tu seras plus au niveau, on te dira là tu laisses tomber, tu passes en conseil je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, le conseil professionnel ou je sais plus quoi, et là on te réoriente vers un autre métier, donc tu vas pas abandonner toi-même. Effectivement non, j'ai jamais pensé à abandonner, j'ai déjà été découragée à plusieurs reprises évidemment. Là je pense que la force du groupe elle est super importante parce que moi c'est ce que je suis venue chercher dans l'armée de l'air, c'est aussi le travail d'équipe. Moi j'adore travailler en équipe, c'est vraiment mon truc, j'aime bien être entourée de personnes parce que parce que je me sens grandir au contact des autres et que toute seule, je sens que je suis pas capable de réaliser des grandes choses, forcément. Donc, j'ai besoin des autres. Et dans ces moments-là, en fait, c'est là où tu as l'esprit promo qui revient. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué pendant 4 ans à l'école d'air avec une promo, une promotion. On était 80, on est que 4 filles, mais on avait un super esprit promo. Et quand tu évolues comme ça, d'école en école de pilotage dans l'armée de l'air, eh ben, tu es avec certaines personnes de ta promo. Et quand certains vont mal et que d'autres vont mieux, ben voilà, on est là pour se réconforter, pour se donner des petits tuyaux et s'aider justement à passer les difficultés. Donc ça, c'est vraiment... je pense que bien s'entourer, c'est vraiment une des meilleures choses à faire quand on veut réussir et quand on s'est donné un objectif. À la fois, j'ai envie de dire à la fois professionnellement parlant, parce qu'on peut... voilà, mes camarades de promo, c'était c'était des collègues, bon, c'est devenu des amis pour la plupart, mais aussi personnellement pas, c'est-à-dire que moi j'ai des parents qui m'ont toujours soutenue quelles que soient les décisions que j'ai prises. Et puis mon mari aussi qui a pris le relais rapidement aussi, en tout cas qui a été vraiment d'une aide vraiment précieuse dans la vie, qui m'a remonté le moral quand ça n'allait pas. Et c'était pas que quand j'étais élève pilote, bien après quand j'étais en escadron de chasse ou encore à la patrouille de France, hein, bien sûr c'est arrivé. Donc voilà, ne jamais rien lâcher, c'est super important. On est aidé dans l'armée parce qu'on a des rôles modèles, c'est-à-dire que on a des traditions qui font qu'on peut s'identifier à des gens qui ont été des héros à un moment donné, qui sont illustrés lors des grands conflits, etc., et qui ont fait montre justement de cette détermination jusqu'au bout, quoi. Et quand tu t'engages dans l'armée, tu sais que tu peux aller au bout, ça peut aller très loin. Et notamment, je pense à Georges Guynemer, qui est une figure emblématique de l'armée de l'air, qui dont la devise... Alors, il y a plusieurs devises. Sa grande devise, c'est faire face. Et pour le coup, c'est quelque chose que je me suis vraiment approprié. C'est-à-dire que dans la vie, quand ça va pas, je sais qu'il faut relever la tête et qu'il faut continuer. Donc ça, c'est quelque chose qui me donne du courage, en fait. Tu vois, c'est deux mots qui me donnent du courage dans n'importe quelle situation. Ça veut pas dire que je vais y arriver, mais ça veut dire que ça me donne du courage de continuer. Et puis, Georges Guynemer, il a dit aussi « Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. » Et ça, tu vois, c'est des choses qui... C'est des petites phrases, hein, moi, qui me reboostent à fond. Et je trouve que c'est important d'avoir comme ça des petits guides de vie qui, dans les moments difficiles, te redonnent un peu la patate. Et même si c'est facile à dire, hein, mais ça veut dire qu'en fait, le travail, ça paye toujours et qu'il faut pas lâcher et que c'est pas sûr que tu vas réussir, mais au moins... Voilà, tu n'auras pas de regrets.
Il y a eu un moment dont tu te rappelles où tu as pu utiliser ces phrases parce que tu as eu besoin de les utiliser.
Plein de fois.
Tu pourras m'en parler.
Ne serait-ce que des fois, dans des missions où tu pars, tu te retrouves dans ton cockpit et tu te dis « Waouh, il faut vraiment que j'y aille là, mais pourquoi je suis là, quoi ?» Et en plus, j'ai des gens dans les ailes. Donc, là, tu te dis « faire face » et tu te dis « Maintenant, je me concentre, je sais faire. J'ai appris, je me suis entraînée. Souvent, tu pars pour des missions, tu sais pas comment ça va se passer vraiment. Il y a de l'incertitude, malgré toutes les procédures que tu as en place, toutes les séances de simulateurs que tu as pu faire. Une mission ne ressemble jamais à l'autre. Mais oui, des moments où je me suis dit faire face, bien sûr, j'en ai eu plein.
Est-ce qu'il y a eu, dans le cadre de tes vols, dans le cadre de tout ce que tu as pu faire, vraiment un moment où tu t'es fait peur? Un moment où tu t'es dit waouh, là, alors j'ai mon training, donc en fait j'ai mes bases, et justement j'imagine que c'est un moyen de se recentrer,
ouais,
et de retrouver des piliers. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dont tu pourrais nous parler, parce que j'imagine qu'il y a des choses confidentielles, où vraiment tu t'es dit, en fait t'as eu une sensation de peur forte?
Oui, bien sûr, ça arrive souvent quand t'es pilote. Faut que ça arrive le moins souvent possible, mais ne serait-ce que quand j'étais élève pilote où j'ai failli foncer dans mon leader à un moment donné parce que j'étais prise par autre chose et que je me suis laissée prendre par une seule tâche dans l'avion. J'avais en plus un instructeur qui me gueulait dessus en même temps et en place arrière, donc ça a contribué à, c'est pas de sa faute du tout, hein, mais ça a contribué à moi me saturer complètement psychologiquement au point de pas regarder dehors et de pas regarder ma position par rapport à mon leader. J'étais en train de le suivre, on était en patrouille, hein, mais j'étais à fond, je devais changer une fréquence, mais tu sais, c'était pas les systèmes qu'il y a aujourd'hui. Tu dois sortir un truc, une espèce de rouleau là où t'enlèves tes gants avec ton ongle, tu enlèves les petits digits parce qu'en fait la fréquence elle a été mal présélectionnée par le mécanicien. Et donc voilà, et ou alors, d'ailleurs c'est peut-être pas par le mécanicien, c'est peut-être le pilote d'avant qui a pas remis la bonne fréquence, hein, et sauf que t'es en train de voler à 300 ou 400 km/h et que t'es en train de suivre ton leader et que potentiellement il fait pas beau et que l'autre derrière il te crie dessus.
Ça fait beaucoup de choses.
Il y a peu d'instructeurs qui crient dessus, hein, dans l'armée, mais il y en a un qui était un petit peu comme ça, et du tout qui mettait la pression aux élèves. Heureusement qu'ils n'étaient pas tous comme ça, mais c'était aussi bien parce que c'était une autre façon de faire et ça permettait de voir comment tu pouvais résister aussi par rapport à ça. Donc voilà, c'est un petit exemple. Il y en a eu plein d'autres. J'ai malheureusement eu un de mes équipiers qui s'est crashé quand j'étais à la patrouille de France, qui heureusement s'en est sorti, mais c'est un moment où j'ai eu extrêmement peur. Et c'est pas juste un moment, parce que même quand on s'est reposé à Salon, je savais pas s'il était encore vivant. Donc, oui, bien sûr, en opération, il y a eu beaucoup de moments difficiles et des moments où on prend peur. Et d'ailleurs, pas forcément que pour soi, pour les gens qui sont au sol, que t'es là pour protéger. Ou pour ton équipier, ou voilà. Donc c'est des choses, oui, régulièrement.
Je te posais la question parce que finalement, philosophiquement, il y a assez peu de métiers où la vie est en jeu. Et puis quand on est pilote, en réalité, elle est quand même un peu tout le temps en jeu, même
Absolument.
Si tu maîtrises ce que tu fais. Et je me dis, ça doit donner quand même un sacré recul sur la vie. Je sais pas si tu y as déjà réfléchi, mais finalement, le fait que ton métier soit aussi lié à une éventualité de mort, c'est quelque chose quand même qui est assez fou quand on y pense. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Est-ce que ce que je veux dire, ça t'a permis d'en tirer des enseignements?
Oui, en tout cas, ça m'a permis de prendre du recul, comme tu dis, sur pas mal de choses. Le fait d'avoir vécu des choses aussi intenses que ce que j'ai vécu, et aussi d'avoir connu de façon si forte des liens qui peuvent unir des hommes et des femmes qui sont pris ensemble dans une mission qui au départ parfois paraît irréalisable et qu'il faut y aller et qu'il faut se donner et qu'il faut se dépasser à la fois individuellement et collectivement. Je trouve que c'est des choses qui te permettent de mieux te connaître toi-même. Et en fait, à travers tous ces événements que j'ai pu vivre dans ma carrière, à la fois opérationnelle et à la Patrouille de France, mais aussi la formation dans l'armée de l'air est hyper riche par rapport à ça, c'est que et dans les armées en général, dans ces métiers opérationnels, c'est que elle est extrêmement riche. Tu fais des stages de survie, tu fais même physiquement, on va te mettre dans une centrifugeuse, on va te mettre dans un caisson hypobare pour voir comment tu réagis quand si ton avion il est plus pressurisé, ouais. etc. Et du coup. Tu manges pas pendant 3 jours, il faut quand même y aller. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. On fait beaucoup, beaucoup de choses, dès le début d'ailleurs, dès que tu arrives à 20 ans en école d'officier. Et même en termes de leadership, où on te met dans des positions de leadership parfois qui sont pas forcément évidentes, mais pour que tu apprennes petit à petit. Et du coup, tu apprends énormément sur toi-même. Moi, les 15 premières années de ma carrière ont été extrêmement riches, à la fois sur le plan professionnel et purement technique parce que par rapport à mon métier de pilote de chasse, mais surtout sur le plan personnel où on m'a poussé dans le retranchement plus d'une fois. Et tout ça, ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup de recul sur la vie en général. Ce qui m'empêche pas de stresser à mort quand mon fils, enfin, mes enfants sont grands maintenant, mais quand ils sont petits et qu'ils font leurs premiers pas et qu'ils courent et alors qu'ils vont se vautrer, forcément, ça, j'ai toujours pas réussi à me débarrasser de ça. C'est sûr que quand l'affect est en jeu, c'est compliqué. De laisser faire, en fait, et de dire, vas-y, fais tes armes et puis casse-toi la figure et puis tu verras bien, quoi. J'ai toujours un peu de mal avec ça, mais malgré tout, c'est en tout cas, c'est sûr que ça me fait prendre un certain recul sur la vie, pas stresser pour n'importe quoi. Mais néanmoins, ça n'empêche que dès que je fais un truc où je sors de ma zone de confort, ça n'empêche que bien sûr que je suis un peu sous pression, et c'est tant mieux. Ce serait tellement fade sinon, tu vois ce que je veux dire. Donc dans la vie, il n'y a pas besoin d'être pilote de chasse pour se mettre la pression et pour se dépasser et de vivre des choses comme moi j'ai pu vivre. Mais on peut très facilement avoir la pression. Après, il faut arriver à prendre du recul et à se faire accompagner si c'est compliqué de gérer tout ça, quoi, bien sûr.
Une autre question que je voulais te poser, c'était par rapport au fait que ce type de métier, c'est quand même des métiers vraiment vocation, plus qu'un métier, on va
Clairement.
Dire, où tu vois, tu t'arrives au bureau à 8h et tu repars à 17-18h, parce que là, en fait, c'est toute ta vie. Et donc, je sais que tu es mariée, que tu as des enfants. Je peux imaginer qu'à l'époque où en plus tu étais sur le terrain, donc je sais que tu as été dans Afghanistan, je crois, etc. Ça, c'est des moments où la vie personnelle, je peux imaginer qu'elle est quand même un petit peu en dessous de la vie professionnelle. Et je voulais te demander si tu avais essayé de cultiver quelques grands principes de « Ok, j'ai quelques soupapes qui sont pour moi, qui restent des moments où c'est pas de la vie pro. » Parce que même si toi, c'est complètement extrême comme exemple, il y a plein de personnes qui travaillent énormément. Je pense à des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise ou même évidemment des managers, des salariés qui travaillent beaucoup. Et en fait, cet équilibre, et je dis pas ça du tout parce que t'es une femme, je pense que c'est le même sujet pour les hommes et pour les femmes, mais au final, se dire « Comment est-ce que j'arrive à ériger quelques grands principes pour quand même conserver un minimum de vie personnelle,
parce que
sinon en fait juste ma vie professionnelle va partir en vrille aussi.
Exactement. Je pense que moi j'estime, en tout cas c'est ce que je pense, c'est qu'on peut pas être à 200% indéfiniment et que y a des moments où on va privilégier peut-être sa vie pro ou un objectif professionnel, mais ça peut pas durer de façon indéterminée, même si clairement, le parcours pour devenir pilote de chasse, etc., c'est super long. C'est plusieurs années, effectivement, où tout tourne autour de ça. Mais moi, ce qui m'a permis toujours de garder cet équilibre, clairement, c'est mon mari qui m'a permis de pas... Bah, de pas sombrer dans mon unique passion aéronautique. Et mon équilibre, c'est ma famille. Après, chacun met son curseur là où il veut. Mais mon mari a été d'une grande aide pour ça.
Et toi, si c'est pas indiscret, vous étiez mariée à l'époque où t'étais sur le terrain?
Ah oui, on s'est mariés il y a 20 ans. Ça fera 20 ans en 2021, ouais. Donc, je me suis mariée, j'étais à l'école de chasse. Donc, c'était 2 ans avant que j'arrive, ou 1 an avant que j'arrive.
Il savait ce qu'il attendait, quoi.
Oui, il savait bien, oui. Et puis, il savait déjà que si un jour j'avais l'opportunité, j'irais à la Patrouille de France. Ouais. Parce que c'était un rêve aussi. Et donc, ça, il savait qu'à la Patrouille de France, pour le coup, la vie de famille, c'est encore pire. Mais bon, ça ne dure pas non plus 10 ans, tu vois. Donc, c'est largement gérable. À partir du moment où tout le monde est d'accord pour que tu fasses ces sacrifices, parce que tu ne les fais pas tout seul, finalement. Donc, moi, en tout cas, mon équilibre, c'est à la fois la pratique du sport qui est super importante, mais ça, c'est une éducation qu'on a dans l'armée et puis moi de aussi dans ma famille. Donc le sport, c'est juste essentiel pour moi, pour prendre du recul, pour se vider l'esprit aussi. Donc la pratique du sport est super importante. Et puis si, même si j'ai pas passé toujours beaucoup beaucoup de temps, je pense surtout à mon aîné que j'ai eu quand j'étais encore sur Mirage F1 et avant la Patrouille de France, les temps que je passais avec lui, pour moi, c'est fait que ce soit vraiment, vraiment qualitatif. Et je me suis toujours dit, peut-être pour ne pas culpabiliser, que c'était aussi important que mes enfants voient que je m'éclatais dans ce que je faisais et que je m'épanouissais aussi et que ça me donnait aussi cet équilibre. Voilà, pour ça ne veut pas dire qu'il me manquait pas et que j'avais pas envie de passer plus de temps avec, mais c'était mon devoir. Je pense notamment à la deuxième fois où je suis partie en Afghanistan, où je suis partie le jour des un an de mon fils aîné. Et ce jour-là, ça a été difficile, mais en même temps, pour moi, j'étais sûre de moi. C'est-à-dire que je partais sans regret. Je le savais bien entouré. On avait bien organisé les choses pour que tout se passe du mieux possible, pour mon mari aussi. Hein. Et aussi, c'était mon devoir de faire ce que j'avais à faire. Donc, en fait, c'est plus par rapport à être clair avec sa conscience, avec ses valeurs, avec ses convictions. Et c'est sûr qu'on peut pas tout faire en même temps, mais se poser la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi qui donne du sens à ma vie. Alors mes enfants évidemment, mon mari évidemment, mais voilà, aujourd'hui mon devoir, c'est d'aller là-bas. Je sais pas si ça répond à ta question vraiment, mais si tu veux, c'est important de toujours être aligné avec
puis d'avoir conscience de là, c'est en ce moment, c'est voilà. Ça. Et plus tard, ça pourrait être autre chose, quoi.
Exactement.
Écoute, je te remercie. Je pense que ça aidera beaucoup de personnes autour de nous. Je termine toujours le podcast par ce que j'appelle le crible du gratin, où c'est des questions un petit peu plus rapides. Enfin, d'ailleurs, t'es pas obligé de répondre rapidement, mais c'est des questions qui sont un petit peu plus, standard, on va dire. Et la première que je pose souvent, c'est est-ce qu'il y a eu un moment d'échec ou une erreur que tu as vécu, évidemment avec douleur, et surtout, quels sont les enseignements que t'en as tirés? Est-ce que tu pourrais nous partager ça?
Alors des échecs, j'en ai eu quelques-uns, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'était tout au début en fait de mon parcours. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans l'armée de l'air pour être pilote, mais sans savoir si j'avais les capacités finalement pour devenir pilote. Alors, tu passes à travers des sélections, tu passes devant un psy, t'as une batterie de tests psy d'ailleurs, t'as des tests psychotechniques aussi, t'as plein de trucs, et on te donne à peu près les résultats, mais ça veut pas dire que tu feras un bon pilote, etc. Donc tu sais pas trop. Et puis en plus, quand t'arrives à l'école de l'air, t'as déjà 2-3 ans d'académique, tu vois, pour avoir le diplôme d'ingénieur avant d'être dans les écoles de pilotage. Mais pendant la deuxième année à l'école de l'air, on avait à l'époque, je sais pas si ça se fait encore, on avait un stage pronostique, c'est-à-dire que c'est un stage où les élèves de l'école de l'air partent à Cognac. Donc Cognac, c'est une base, une grosse base de formation de l'armée de l'air, et on partait pendant un mois. Et première semaine, théorie, tu vois, donc avant de pouvoir piloter un avion, il faut que tu apprennes un peu la théorie, circuit hydraulique, circuit électrique, machin, comment ça fonctionne le moteur, etc. Les pannes, voilà, un peu de simulateur. Et puis dans la foulée, des vols en biplace, enfin avec un instructeur. Et normalement, à la fin du stage, tu es lâché. Après, je sais plus, 7-8 vols, tu es censé être lâché.
Sur l'avion.
C'était un TB-30, donc un Epsilon à l'époque. Donc un avion hélice. Et moi, j'étais une des rares de ma promo à pas être lâchée, en fait. Et donc, ça a été un échec terrible parce que, après, dans la foulée, tu vois, tu peux même pas recommencer, quoi. Réessayer, parce que tu repars à l'école de l'air, refaire tes cours, tes machins. Et puis, tu dois attendre un an avant de vraiment attaquer la vraie formation. Et donc, c'était très, très dur parce que je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, je suis pas faite pour être pilote, quoi. C'est peut-être pas mon truc. Il m'a pas lâché, là, l'instructeur. Il croit que je suis pas capable. Je comprends pas pourquoi. Parce que je me suis pas trouvée catastrophique en vol, mais c'est sûrement que j'étais pas au niveau. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et c'était un énorme échec pour moi. Et en même temps, j'étais aussi touchée dans mon ego, certainement, tu vois. Et en même temps, je me disais, mais voilà, j'ai pas été lâchée. Faut que je change. Peut-être qu'il faut que je change. Et donc, ça a été compliqué parce que c'est un échec dont j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Beaucoup de colère pendant beaucoup de semaines. Je me sentais aussi humiliée, hein, clairement, par rapport à mes camarades. Je voyais pas ce que j'avais mal fait. Voilà, mes résultats étaient pas trop mauvais dans la formation, les différents vols, les débriefings, justement, etc. Bon, voilà, pas lâché. Et du coup, on retourne à salon, pleine de colère, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis apaisée avec le temps et je me suis dit qu'il fallait que je comprenne mieux pourquoi ça avait pas marché, quoi. Et du coup, voilà, j'ai essayé d'analyser tout ce que j'avais fait et je me suis dit finalement, peut-être que j'ai abordé ce stage pronostic avec un peu trop d'aisance en me disant, voilà, maintenant, en me disant que ça allait le faire, quoi, tout simplement, et que j'ai peut-être pas assez travaillé, si tu veux. Voilà, on sortait parfois le soir les uns les autres parce que c'était cool aussi, tu vois. T'as 20 ans, 21 ans, t'as fait maths sup aspé 3 ans, t'en as un peu marre, t'es arrivé à l'école, maintenant c'est cool, quoi. Et bon, en fait, c'est pas si cool que ça finalement, et en fait, c'est un vrai métier et c'est pas si simple que les souvenirs que j'avais quand j'ai fait mon baptême de l'air, et qu'en fait, il va peut-être falloir que je travaille. Et du coup, j'ai rongé mon frein pendant des mois et des mois, et j'avais qu'une envie, c'était d'en découdre et vraiment de commencer la formation et de me donner les moyens, si tu veux, et de pas passer à côté du truc, parce que voilà, finalement, en restant dans ce même état d'esprit, à imaginer que ça allait le faire, parce que il y a pas de raison que ça le fasse pas, peut-être que à nouveau j'aurais échoué et ça serait pas passé. Donc j'ai décidé de tout faire et de faire peut-être même quelques petits sacrifices parfois, de pas sortir à ce moment-là, même si tout le monde sort et que j'ai qu'une envie, c'est d'y aller et de réviser mes checks et de faire peut-être plus de d'amphicabine, tu sais, quand tu vas dans le hangar, dans l'avion pour répéter tes checklists, etc., que les autres, parce que peut-être que moi j'avais besoin de plus avec les autres, et voilà. Et donc ça m'a juste donné, et je trouve que j'ai eu de la chance d'avoir ce stage pronostic, parce que si j'étais partie sans stage, sans avoir eu la chance de faire ce stage, dans ma formation, avec le même état d'esprit que celui avec lequel ouais. j'avais abordé ce stage, eh ben, je serais peut-être plantée, et aujourd'hui je serais peut-être pas là pour en parler. Ouais. Donc, plantée dans le sens, j'aurais peut-être pas réussi cette
oui,
carrière.
Tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu te donnes vraiment les moyens de tes ambitions.
Exactement,
quoi.
Exactement.
Est-ce qu'il y a quelque chose, si tu pouvais le refaire, que tu referais différemment? Ça peut être pro, perso.
Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, franchement, on peut toujours mieux faire, j'imagine, mais je pense pas que je referais grand-chose différemment. Voilà. Même si tu vois, on disait tout à l'heure, enfin moi j'étais très prise par et très comment dire, très soucieuse de ma progression en vol, et notamment en escadron de chasse, etc. Donc très prise par ça, donc pas toujours très facile à vivre pour mon mari. Donc effectivement, peut-être que c'est ça que je pourrais changer et essayer de mieux gérer ça. Je sais que voilà, ça n'a pas toujours été facile pour lui, je pense. Mais malgré tout, voilà, ça fait partie de mon caractère, et même c'est important de travailler sur soi régulièrement. Mais voilà, de façon générale, je ne changerais pas grand-chose parce que je pense justement avoir peut-être choisi les bonnes personnes aussi pour m'aider, être allée pour m'entourer en tout cas, et avoir eu la chance. J'ai eu surtout beaucoup de chance d'avoir un super soutien familial, personnel, et aussi voilà, des super parrains, coachs professionnels. Donc j'ai pas grand chose en fait, il me semble. Je referai la même chose certainement, et tu vois, du coup, sûrement les mêmes bêtises aussi, parce que c'est ça qui m'a permis ensuite de rebondir derrière.
C'est comme ça qu'on apprend. Je sais que t'aimes bien les maximes. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît particulièrement, ou peut-être tout simplement des mots de sagesse que tu aimerais partager avec l'audience?
Non, mais c'est vrai qu'on a déjà parlé de pas mal de choses, et notamment Georges Guynemer, moi qui est toujours quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Mais non, mais écoute, ce qu'on vient de dire, je trouve que c'est pas mal, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes que je rencontre, c'est ne jamais rien lâcher et se donner moyen de y arriver. Donc se donner les moyens d'y arriver, pour moi, c'est essentiel, parce que même si à la fin tu réussis pas, parce que ça suffit pas parfois de donner les moyens d'y arriver, on peut avoir un échec, et ben au moins t'as pas de regret derrière. Et ce que t'as fait, si tu t'es vraiment donné les moyens, t'as forcément appris quelque chose, et ça va forcément t'aider pour la suite, ouais. Ou pour l'autre voie que tu auras choisie, ou je sais pas, mais en tout cas, ne rien regretter. La vie est trop courte et il faut rien regretter.
Oui, puis tu repars à zéro du coup pour la fois d'après. Tu
Exactement.
Repars de ce que t'as déjà appris. Est-ce qu'il y a quelque chose en lequel tu crois, mais qui est assez controversé? Une croyance, une philosophie? C'est une question un peu bizarre, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Mais
ouais, c'est difficile.
Parfois assez intéressant.
Non. Je vois, ça ne vient pas. J'ai pas l'idée là-dessus.
Pas de souci. Et enfin, ma dernière question que j'aime bien poser, parce que je lis beaucoup. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs livres qui t'ont particulièrement marqué et que tu aimerais nous recommander?
Toi, tu lis beaucoup, c'est bien. Parce que moi, je rêve
ça
de lire beaucoup.
Film, ça peut être autre chose hein, qui t'a particulièrement marqué.
Ah, L'étoffe des héros, c'est un film qui m'avait énormément marqué, évidemment. C'est l'histoire du passage du mur du son, qui est un peu long, mais que j'ai adoré. D'ailleurs, qu'il faut que je revoie avec mes enfants, absolument. J'ai pas de livre à recommander absolument parce que je lis pas assez. Et pourtant, j'adore ça et j'aimerais bien lire plus. Moi, il y a un livre, quand j'étais jeune, qui m'a beaucoup... motivé, c'était Les Sorcières de la Nuit. C'était un livre qui raconte l'histoire de ces femmes pilotes russes. Ouais, elles sont peu connues, mais en fait, les Allemands les appelaient les Sorcières de la Nuit parce que c'est des bombardements de nuit. Elles étaient hyper
c'était
efficaces.
Des femmes pilotes.
C'est des femmes pilotes.
Mais c'était à quelle époque?
Deuxième guerre mondiale. Et en fait, elles ont été très peu connues. Elles ont été reconnues a posteriori. Il y en a beaucoup qui sont décédées, évidemment. Et elles étaient pleines de courage, pleines d'audace. Elles étaient très jeunes, parfois. Et c'était des héroïnes, et des vraies héroïnes, au sens où elles n'étaient pas encensées parce que personne n'en parlait. Et c'était vraiment des héroïnes de l'ombre. Donc ça, c'est un... Tu vois, en termes de valeur, c'est quelque chose... C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne l'ai pas relu depuis. Hein, je ne sais pas comment ça passe aujourd'hui, mais il m'a marqué, ouais. Il m'a marqué. Et là, j'ai commencé un livre aussi que je trouve assez intéressant. Ça s'appelle... Alors, quand tu regardes le bouquin, il y a marqué... En gros, de loin, il y a marqué « Tu seras un homme, mon fils ». Et quand tu lis entre les lignes, il y a marqué « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Et je l'ai commencé. Alors moi, je ne l'ai pas fini.
D'accord.
Mais il me donne envie de continuer. Pourquoi ? Parce que c'est un bouquin... Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, hein, malgré tout. Mais ce que j'aime bien, et je ne suis pas une militante de quoi que ce soit, je suis féministe au sens, je suis vraiment pour l'égalité. Mmh. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est important de dire aux jeunes filles... que tout est possible et de changer un peu leur éducation par rapport à ce qui s'est fait auparavant pour leur montrer que évidemment tout est possible, mais je pense que c'est aussi important de peut-être de modifier aussi notre éducation des garçons.
Ah oui.
et parce que on a quand même depuis des siècles, on est dans une société qui est assez patriarcale et je trouve ce livre super intéressant parce que à la fois il dit que... Et c'est que le début, donc je sais pas exactement, mais les jeunes garçons n'ont pas forcément vocation à devenir des mâles, des gens super virils, etc. Et sont aussi des jeunes êtres humains sur lesquels on met aussi la pression. Il faut être fort, il faut toujours être courageux, etc. Oui, il faut être courageux, mais bien sûr, une jeune fille aussi. Moi, ma fille, je lui dis tous les jours qu'il faut être courageuse. Et mon fils aussi, évidemment. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que ça vous laisse sur beaucoup de choses. Elle a beaucoup de références en plus. Je sais plus comment je crois que c'est Aurélie Blanc qu'elle s'appelle.
Je regarderai.
Une fois, il y a des choses parfois où je trouve que c'est un petit peu, peut-être parfois un tout petit peu caricaturé, mais il y a beaucoup de références qui sont intéressantes.
Écoute, je vais regarder ça. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Merci mille fois. Merci beaucoup Virginie. Si on veut te retrouver sur le monde merveilleux des réseaux sociaux, du web, où est-ce qu'on peut le faire pour te contacter, te faire un petit coucou?
Alors moi, je suis surtout présente sur LinkedIn. Mm-hmm. Et puis j'ai un site internet qui s'appelle tout simplement www.virginieguyot.com. Voilà.
Et aujourd'hui, on n'en a pas du tout parlé, mais donc ton métier, c'est plus d'être dans l'armée de l'air, c'est maintenant de faire des conférences que t'animes sur les thématiques du leadership, de l'esprit d'équipe, etc. pour des entreprises. Et là, typiquement, si certains managers, dirigeants d'entreprise, dirigeants RH, etc. souhaitent te contacter, ça se passe sur LinkedIn et sur le site, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais. Okay. Sur les deux, sans problème. Ouais, ouais.
Super. Bah, merci mille fois.
Merci beaucoup, Pauline.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux, et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.